RFI. Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous parlons des rhumatismes, un terme général qui recouvre de très nombreuses affections, près de 200 pathologies différentes qui affectent les os, les muscles, les articulations et sont souvent associées à des douleurs plus ou moins intenses, plus ou moins fréquentes. Arthrite, arthrose, polyarthrite rhumatoïde ou lombalgie, ces rhumatismes toucheraient un Français sur trois et, contrairement aux idées reçues, ne concernent pas seulement les personnes âgées. Certains rhumatismes sont d'origine inflammatoire, d'autres maladies rhumatismales sont dégénératives. Elles constituent en tout cas une cause importante d'invalidité à l'échelle de la planète et peuvent avoir un très lourd impact en termes de qualité de vie. L'évaluation de la douleur est essentielle pour leur prise en charge, pour orienter le protocole de soins et éventuellement la rééducation. Car une fois la douleur maîtrisée, une activité physique est recommandée pour de nombreux rhumatismes, des activités encadrées, adaptées, qui favorisent l'entretien de cet appareil locomoteur pour éviter à tout prix que rhumatisme ne rime avec perte d'autonomie et repli sur soi. Maladies inflammatoires chroniques, raidissements ou enraidissements, douleurs articulaires. Pour parler donc des rhumatismes dans toutes les acceptions du terme, avec nous en studio, professeur Francis Berenbaum, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, responsable de l'équipe INSERM Arthrose et maladies métaboliques au sein de Sorbonne Université. Vous avez aussi signé le grand livre de l'arthrose publié aux éditions Erol. En cours d'émission, on va retrouver en ligne du Sénégal le professeur Soubaïbou Ndongo, chef du service rhumatologie et médecine interne à l'hôpital Dal Al-Jam de Dakar. En fin d'émission, ce sera la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et bien sûr, on attend vos appels, vos questions sur les rhumatismes et vos témoignages. Notre contact, c'est bien sûr la page Facebook de l'émission et le numéro 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Je le disais à l'instant, près de 200 maladies, tout de même, que l'on range dans cette grande famille des rhumatismes. Professeur Francis Berenbaum, première chose, on peut être atteint de rhumatisme à n'importe quel âge de la vie.
Absolument, c'est vrai que l'image des rhumatismes, c'est plutôt la personne âgée en se disant, voilà, il y a des douleurs, c'est lié à l'âge.
Même dans le langage commun, on entend les gens dire, je me fais vieille, j'ai des rhumatismes.
Oui, voilà. Exactement. En fait, les rhumatismes, comme vous l'avez très bien dit, c'est beaucoup, beaucoup de maladies et ça peut très bien toucher l'enfant. C'est de l'enfant jusque la personne âgée, et ça passe par tous les âges de la vie. Alors évidemment, en fonction de l'âge, ça va pas être le même type de rhumatisme, mais au bout du compte, c'est de la douleur, et au bout du compte, c'est des problèmes de fonction articulaire, donc ou de douleurs osseuses, donc effectivement un large problème.
Est-ce qu'on pourrait dire, sans simplifier, que plus ça vient tôt, plus c'est inquiétant ?
Pas nécessairement, ça dépend quel type de rhumatisme. Chez l'enfant, ça va être des rhumatismes inflammatoires qu'il va falloir maîtriser assez rapidement pour justement éviter qu'il y ait des séquelles. Après, chez l'adulte jeune, par exemple, il va y avoir des tendinites, ces problèmes qui peuvent être extrêmement douloureux, extrêmement gênants à un moment donné de la vie. Mais ce qui ne veut pas dire qu'ensuite il y aura des séquelles. Après, si on parle d'arthrose, effectivement, ça peut être beaucoup plus chronique. Donc c'est très très large et je pense que ce n'est pas parce que on va avoir un problème rhumatologique chez un adulte jeune que pour autant ça y est, on devient vieux. Vous voyez, il y a souvent cette question qui revient, à savoir, voilà, on a des douleurs à 30 ans, c'est le début des problèmes. Non, pas nécessairement.
Professeur Francis Berenbaum, tout de suite une question sur cette fameuse chronicité. Est-ce que quand le rhumatisme est inflammatoire, il est tapis en nous, prêt à renaître à n'importe quel moment, ou on peut vraiment s'en débarrasser ?
Alors, Ça dépend quel rhumatisme inflammatoire, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, vous avez évoqué la polyarthrite rhumatoïde, c'est sans doute le rhumatisme inflammatoire le plus connu. Je ne sais pas si c'est le plus fréquent, parce qu'on va aussi peut-être parler de la goutte, qui est extrêmement fréquent. Mais la polyarthrite rhumatoïde, effectivement, c'est une maladie qui peut être tapie, effectivement, dans son coin et qui peut se réveiller à un moment donné. C'est vrai. Pour le rhumatisme psoriasique, c'est vrai pour les spondylarthrites, qui sont également extrêmement fréquentes. En revanche, si on prend la goutte, si elle est bien contrôlée avec les bons médicaments, elle peut être tout à fait contrôlée, éteinte pendant de très très nombreuses années, voire ne pas se réveiller.
Beaucoup d'idées reçues sur ces rhumatismes. On parlait tout à l'heure de l'image, avoir des rhumatismes c'est être vieux, c'est faux. Professeur Francis Berenbaum, par exemple, ça ne touche pas que les os ou les articulations. Est-ce qu'on peut dire qu'une tendinite, c'est un rhumatisme ?
Oui, absolument. Une tendinite, c'est un rhumatisme. Par exemple, la tendinite de l'épaule, qui va se voir souvent dans le milieu professionnel, à force de répéter toujours le même mouvement, ou bien des douleurs du poignet, voire des fourmillements dans le poignet, enfin dans la main, à la suite de mouvements répétitifs, c'est un rhumatisme. À partir du moment où ça touche l'appareil locomoteur, à partir du moment où il y a des douleurs et qu'il y a une diminution de la fonction, eh bien, on va pouvoir parler de rhumatisme.
Et trivialement, si on dit j'ai mal au dos, ça veut dire que c'est une forme ou une autre de rhumatisme.
Absolument. La colonne vertébrale, ce sont des os. Ce sont des articulations, et en plus, il y a les disques entre les vertèbres, mais tout ça, c'est il y a des muscles également au niveau de la colonne vertébrale. Donc oui, les lombalgies, le mal de dos, les douleurs cervicales, très 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 fréquentes, c'est du rhumatisme.
Alors, un Français sur trois concerné, d'après les statistiques, ça paraît énorme. Ça veut dire quoi finalement ? C'est que l'humain, il n'est pas fait pour marcher debout ?
Eh bien, Alors, c'est une très très bonne remarque parce que on pense effectivement que ça fait partie de ces maladies qui sont liées à l'évolution. C'est-à-dire que il y a très 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 longtemps, on était à courir, à marcher, mais par obligation, pour faire du sport, mais parce qu'il fallait aller chercher à manger.
Il fallait se cacher quand t'arrivais une bête féroce.
Il fallait se cacher, exactement. Bon, donc, il y avait énormément d'activités. Et en fait, ce n'est que depuis une centaine d'années, donc c'est hier, qu'on a complètement changé notre façon de vivre. C'est trop rapide. Et ça, notre corps, pour s'adapter, il lui faut, on va dire quelques milliers d'années. Là, ça s'est fait en 100 ans.
Maladie de la sédentarité, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Absolument. Maladie de la sédentarité, maladie de la malbouffe, maladie de vouloir parfois en faire trop trop vite pour essayer de récupérer le temps perdu. Enfin, voilà, beaucoup de problèmes liés également au stress. Et tout ça, ça provoque ces fameux rhumatismes.
Alors, terme essentiel, on l'a pas encore prononcé pourtant, c'est la douleur, cette fameuse douleur qui impacte la qualité de vie quand on a des rhumatismes. Est-ce que justement, professeur Francis Berenbaum, c'est la première motivation de celles et de ceux qui viennent vous voir en consultation en vous disant « j'ai mal là ».
Ah oui, clairement. C'est la première cause de consultation. La raison pour laquelle on va voir un rhumatologue, c'est parce qu'on a mal quelque part, globalement. Alors ça peut être une douleur extrêmement aiguë, brutale, ou bien une douleur chronique, ou bien une douleur lancinante. Il y a tous les types de douleurs possibles. À nous ensuite, médecins, rhumatologues, généralistes, d'arriver à trouver quelle est l'origine de cette douleur. C'est une enquête policière pour essayer de trouver un peu d'où vient cette douleur, pour ensuite pouvoir la traiter correctement.
Alors c'est essentiel que le patient réussisse à décrire justement cette douleur. Comment vous allez chercher justement cette façon, ce portrait de la douleur particulier qui peut correspondre à telle ou telle maladie ?
Oui. Alors, bien évidemment, tout commence par l'interrogatoire, ce qu'on appelle l'interrogatoire. Vous voyez, c'est même un terme policier. Tout commence par poser des questions. On pose des questions pour savoir quand est-ce que ça a commencé. Est-ce que ça a commencé brutalement ou progressivement? Est-ce que c'est une douleur qui réveille la nuit ou bien est-ce que c'est une douleur plutôt à l'effort? Est-ce que, en plus de cette douleur, il y a d'autres problèmes qui se sont associés ou pas? Vous voyez, il y a tout un panel de questions que l'on va être amené à poser et petit à petit, on va pouvoir préciser de plus en plus quelle est l'origine de la douleur et c'est de cette façon-là, avec après, bien évidemment, l'examen clinique, les prises de sang, les radios, etc., qu'on va pouvoir confirmer le diagnostic qu'on aura évoqué par l'interrogatoire. Donc effectivement, les questions que l'on pose au début d'une consultation, c'est absolument fondamental.
Alors ces fameuses 200 maladies, on peut citer celles dont le fardeau est peut-être le plus lourd, professeur Francis Berenbaum, les noms les plus connus en tout cas, distinguer déjà l'arthrite de l'arthrose.
Alors, comment est-ce qu'on distingue l'arthrite de l'arthrose ou quelle est la différence? L'arthrose, c'est ce qu'on décrit comme étant une maladie dégénérative. J'aime pas du tout ce terme-là, parce que dégénératif, ça veut rien dire. On va dire que ce sont nos articulations qui s'autodétruisent à partir d'un certain âge, mais cet âge-là, c'est pas nécessairement 80 ans, ça peut très bien être à partir de 30 ans ou 40 ans, en fonction des facteurs de risque, et qui vont être essentiellement liés à l'effort. Du moins, on va voir apparaître les douleurs plutôt à l'effort et au repos, ça va plutôt se calmer. Il peut y avoir des poussées ou ça peut réveiller la nuit, mais bon. L'arthrite, il va y avoir une origine beaucoup plus inflammatoire. Même, encore une fois, si dans l'arthrose, il peut y avoir un peu d'inflammation. Mais l'arthrite, ça va être un spectre beaucoup plus large. On va retrouver dedans l'inflammation de la goutte. On va retrouver dedans l'inflammation plus auto-immune, de la polyarthrite rhumatoïde ou bien de la spondylarthrite. On va retrouver aussi parfois les infections qui vont appartenir à ces arthrites. Donc vous voyez que derrière le mot arthrite, il y a énormément de maladies.
C'est une autre sous-famille.
Très hétérogène. C'est une nouvelle sous-famille. L'arthrose, même s'il y a des sous-familles, c'est quand même une maladie à part entière.
Et qui se voit l'arthrose quand on fait des radios, c'est visible à l'œil nu?
La définition de l'arthrose s'appuie sur la radio. Ceci dit...
Ça dépend peut-être à quel stade.
C'est-à-dire que, voilà, quand on fait le diagnostic qui s'appuie donc sur la radio, on est sans doute déjà à un stade un peu évolué. On aimerait bien pouvoir faire un diagnostic plus précoce, mais aujourd'hui, on peut pas. Donc c'est vraiment la radio qui est notre juge de paix.
Quand on va justement vers des prothèses, par exemple les prothèses de hanche, c'est plutôt pour des personnes qui seraient donc, je suis votre raisonnement, oui, atteintes d'arthrose.
Alors, la majorité des prothèses posées aujourd'hui, que ce soit pour la hanche ou pour le genou, c'est du fait d'une arthrose que l'on n'arrive plus à contrôler par nos médicaments, notre prise en charge qu'on dit non pharmacologique avec des approches de ce type-là. Après, on peut mettre des prothèses pour d'autres raisons, également pour des arthrites ou autres, mais c'est quand même globalement surtout pour l'arthrose qu'on pose aujourd'hui des prothèses.
Alors avec vous, professeur Francis Berenbaum, on va revenir sur les questions essentielles de la prise en charge, on va parler des médicaments. Justement, on va aborder ces questions avec nos auditeurs, avec leurs questions. On prend tout de suite en ligne ces auditeurs sans plus tarder.
Priorité santé sur RFI.
Et c'est tout d'abord une auditrice qui nous appelle du Burkina Faso, d'Ouagadougou. C'est Kadidia. Kadidia, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, on vous écoute, Kadidia.
Oui, j'avais 3 ans déjà. Déjà, j'avais des douleurs au niveau du poignet. Et du l'air au niveau du pied, je suis partie. On m'a dirigé vers un dermatologue, j'ai dit dermatologue. Rhumatologue, il m'a diagnostiqué le rhumatisme. Donc, pour une première consultation, il m'avait prescrit des cortisones. J'ai pris ça depuis, maintenant il a ajouté le Liberfolie. Et de Métrotrexate. Actuellement, je suis là-dessus. Ce médicament-là, je le prends. Donc, je voulais savoir un peu plus sur la maladie. Et j'ai un enfant de 7 ans, je voulais savoir si je peux avoir la même maladie aussi.
D'accord, Kadidia, on va répondre à ces questions. Moi, j'ai des petites questions complémentaires à vous poser. D'abord, est-ce qu'on vous a donné le nom de ces rhumatismes? Votre médecin vous a dit que vous aviez des rhumatismes. Est-ce qu'il a précisé le nom de la maladie précise qui vous atteint?
Oui, il m'a dit que c'est un rhumatisme polyarthrite.
J'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez répéter doucement? Parce que, hélas, là, les auditeurs l'entendent, la ligne est mauvaise.
Oui, polyandrie.
Poly. Polyandrie. J'ai un peu du mal à entendre. J'ai pas bien ce que j'ai compris. En tout cas, j'ai une autre question très concrète à vous poser. Est-ce que l'association de ces trois médicaments, Kadidia, vous a soulagé? Est-ce que ça va mieux?
Oui, ça va mieux par rapport au début.
Alors, professeur Francis Berenbaum, première chose, nous expliquons, on a bien compris, les corticoïdes, les autres médicaments cités par Kadidia, méthotrexate et l'éderfoline, qu'est-ce que c'est?
Alors, le méthotrexate, c'est le traitement de fond que l'on prescrit, nous rhumatologues, en première intention dans les rhumatismes inflammatoires chroniques de type polyarthrite rhumatoïde. Donc, bonjour Kadidia, je ne sais pas si c'est ce diagnostic-là que l'on a posé, mais en tout cas, c'est sûrement une maladie qui appartient à cette famille de rhumatismes inflammatoires chroniques. Et effectivement, vous avez très certainement reçu le bon médicament, puisque c'est celui que l'on doit prescrire en première intention, lorsque c'est possible, dans ce type de rhumatisme. Et du coup, je ne suis pas surpris que vous alliez mieux, puisque c'est un médicament particulièrement efficace, simple à prendre une fois par semaine. Et le fait que vous preniez également de la cortisone, eh bien, votre rhumatologue vous l'a prescrit pour vous soulager très rapidement de vos douleurs, même si, bien sûr, je pense qu'il essaiera prochainement de réduire la dose et peut-être même de l'arrêter un jour. La léderfoline, en fait, c'est lorsqu'on prend du méthotrexate, on donne un peu de vitamine. Et la léderfoline, c'est tout simplement de la vitamine que l'on donne en supplément du méthotrexate pour lui éviter quelques effets secondaires possibles. Je pense que vous pouvez être rassuré par rapport au traitement que vous recevez. C'est certainement le bon traitement. J'ai entendu également que vous vous inquiétiez par rapport à vos enfants.
Alors ça, c'est une question récurrente, hein, parce qu'on a aussi Vital de Bukavu RDC qui nous dit, est-ce que les rhumatismes sont héréditaires? C'est une question qui revient souvent.
Oui, absolument. C'est vraiment une question qui nous est posée très, très régulièrement. On peut comprendre, hein, on a peur pour ses enfants. En fait, il y a un petit peu de génétique dans ce type de maladie. Mais au bout du compte, On va prendre un exemple. Si on prend la polyarthrite rhumatoïde, le risque d'avoir une polyarthrite rhumatoïde dans la population générale, c'est 0,3%. Donc, c'est très très faible. Si jamais vous avez une polyarthrite rhumatoïde, pour vos enfants, le risque, il passe de 0,3% à 3%. Alors, vous allez me dire, oui, c'est beaucoup, c'est 10 fois plus. Ben oui, mais au bout du compte, 3%, c'est très très peu. Donc, finalement, faut pas vous inquiéter pour vos enfants. Il y a peut-être une toute petite augmentation du risque qu'ils fassent un rhumatisme, mais il est tellement faible qu'il faut pas vous en inquiéter. Vous pouvez être rassuré par rapport à ça. Et surtout, ne pas culpabiliser non plus, hein, parce que ça, c'est quelque chose également qui revient.
Kadidia, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous avez une autre question?
Oui. Je voulais savoir si ça peut par rapport à...
Oui, alors, donc, votre question, c'est par rapport à la libido, éventuellement, les problèmes sexuels qui peuvent résulter de ces médicaments. La réponse est non. Il n'y a pas de problème de libido avec les médicaments. Et vraiment, ça, c'est très, très étudié en ce moment. Les problèmes de libido que l'on peut éventuellement rencontrer, c'est lié plutôt à la maladie, à l'inquiétude que l'on a par rapport à cette maladie, aux douleurs que cela peut provoquer liées au rhumatisme et donc ces inflammations dans les articulations.
On peut imaginer aussi l'état de fatigue générale.
L'état de fatigue générale, absolument. Éventuellement des dépressions réactionnelles qui peuvent être associées, mais c'est pas lié aux médicaments. Hein. Donc, il faut absolument que vous en parliez avec votre médecin traitant de ce problème-là, avec votre rhumatologue, etc. Mais soyez rassurés par rapport aux médicaments. C'est pas lié aux médicaments, c'est lié à la fatigue et aux problèmes autour de la maladie.
Voilà Kadidia, excellente journée à vous à Ouagadougou, au Burkina. On va partir tout de suite pour la Guinée, pour Conakry précisément, où l'on a Lansana en ligne. Bonjour Lansana.
Oui, bonjour Caroline, bonjour à tous.
On vous écoute Lansana.
Oui, juste je vous rappelle que tout a commencé en 2008 quand j'étais en fin de cycle à l'université. Non, j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires et je suis allé voir un médecin et j'ai compris par la suite que ce n'était pas un spécialiste. Il m'a consulté, il m'a dit, comme c'était des douleurs articulaires, il m'a conseillé de faire des examens que j'ai eu à faire. Il m'a dit que c'est le rhumatisme qui commence et c'était aplopositif d'après lui. Et il me prescrivait chaque fois maintenant de l'estancyline que je prenais chaque semaine. Après là, chaque fois je prenais ça maintenant, chaque semaine. Mais par la suite, au fur et à mesure, j'ai compris qu'il y a eu un petit... Sous chaque fois, il y a eu des déformations au niveau de mes articulations. Et avant, je faisais du sport. En 2009, comme ça, vers le mois de juin, là, je ne pouvais plus faire de sport. Et ça continuait comme ça, je continuais toujours à apprendre. Et j'ai des inquiétudes maintenant, là, même l'oscillation au niveau de mon cou, mes articulations, ça me fait mal. Et ça a causé des déformations au niveau de mes doigts, surtout. Et il y a 5 mois, je suis allé voir un spécialiste. Je suis sous traitement, il m'a prescrit des produits que je suis en train de prendre. Ça aussi, quand j'ai commencé à prendre, ça fait 2 semaines et quand j'ai pris le produit, quand il y a eu rupture d'abord de médicaments pendant 3 jours, il y a mes plaies qui se sont enflées. Quand je suis allé le voir, il m'a dit que c'était dû à la rupture des médicaments et qu'il fallait continuer. J'ai continué, j'ai vu des améliorations.
Lansana, excusez-moi de vous interrompre, vous ne prenez que des anti-inflammatoires?
Non, maintenant là, je ne sais pas, mais quand avant d'aller voir le médecin spécialiste, je prenais les anti-inflammatoires et maintenant, on m'a conseillé de ne pas continuer sur ça, parce que c'est devenu comme c'est de la drogue pour moi maintenant. Quand je ne prends pas, je ne prends rien toute la journée. Donc, ils m'ont conseillé d'aller voir un spécialiste qui m'a prescrit des produits que je suis sous traitement il y a 5 mois de cela, je suis sous traitement.
Et justement, Lansana, vous avez en tête le nom de ces produits?
Et l'anti-inflammatoire que je prenais chaque fois.
Non, pas l'anti-inflammatoire, les autres traitements associés.
Oui, actuellement, je prends du plaquenil, l'oracol, oméprazole et Acfol.
Professeur Francis Berenbaum, beaucoup de médicaments pour Lansana, mais il le dit, ces rhumatismes ont un effet visible désormais à l'œil nu, ça veut dire que c'est avancé, ça veut dire qu'il y a eu vraiment des séquelles.
Alors bon, évidemment, c'est difficile hein, de poser un diagnostic
à distance,
comme ça, à distance, c'est difficile. Lansana, bonjour, quel âge vous avez?
J'ai 34 ans.
34 ans, d'accord, donc vous êtes très jeune. Bon, écoutez, a priori, si le spécialiste vous a prescrit du plaquenil et d'autres médicaments que j'ai pas bien compris, mais en tout cas, ça veut dire que probablement il y a un rhumatisme inflammatoire et donc un traitement de fond avec le plaquenil. Je ne peux pas savoir quel est le type de rhumatisme inflammatoire, mais là, c'est un petit peu la même réponse que pour Khadidia, c'est à savoir que maintenant vous avez un traitement de fond, donc a priori, et puis vous êtes suivi plus étroitement, je pense que ça explique pourquoi vous êtes amélioré hein, maintenant. Mais vous avez soulevé quelque chose qui est quand même très intéressant et très important, c'est que à cause de votre rhumatisme, vous avez arrêté le sport. Et du coup, vous avez dû limiter votre activité physique. Et je crois que ça, c'est un point fondamental. Les rhumatismes en général, parfois c'est considéré comme un problème bénin. Bon, on a des douleurs, voilà, c'est entre guillemets, c'est pas grave. Voilà. Je pense que c'est une vision fausse. Et en plus, maintenant, on a les études qui le montrent. Lorsqu'on a des rhumatismes, on diminue son activité physique. Et le fait de diminuer son activité physique rend sédentaire. Et le fait d'être sédentaire provoque plein d'autres maladies.
C'est un cercle vicieux.
Et c'est un cercle vicieux, ça provoque une augmentation du risque cardiovasculaire. Et donc, entre autres, diabète, hypertension, à force. Et donc, il faut pas accepter ça. Il faut pas accepter le fait de s'entendre dire « Oh, bah oui, vous avez un peu de douleur, c'est pas grave. » Non, il faut absolument que les rhumatismes, quels qu'ils soient, soient bien contrôlés pour avoir comme objectif une activité physique correcte.
Il faut continuer à bouger, mais bouger peut-être différemment.
Il Oui, il faut continuer à bouger. Il faut éventuellement être encadré par un kiné hein, au début ou autrement. Mais l'objectif, c'est ne plus avoir mal ou en tout cas à un niveau qui soit acceptable pour pouvoir continuer et avoir une activité physique. Il y a tellement de raisons dans notre vie de tous les jours pour diminuer notre activité physique sans avoir les douleurs, pour plein d'autres raisons, qu'il ne faut pas en rajouter. C'est fondamental pour pouvoir, comme on dit, vieillir en bonne santé.
Alors, gérer la douleur, malgré tout, professeur Francis Berenbaum, on a peur de l'accoutumance, on a peur de devenir complètement accro à ces antidouleurs. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux, justement, ne pas subir, mais ne pas non plus de devenir accro?
Ouais. Alors déjà, contrôler la douleur, ça veut pas nécessairement dire toujours médicaments. Contrôler la douleur, ça peut être des médicaments, mais c'est également plein d'autres choses. Par exemple, on sait aujourd'hui que le fait d'être en surpoids augmente la douleur. Vous voyez, vous avez une articulation ou quelque chose qui est douloureux. Une personne qui est en surpoids va ressentir la douleur de façon beaucoup plus importante. Donc, c'est facile à dire, hein, mais la perte de poids est un traitement antidouleur.
Mais qui est aussi associé à l'exercice physique, donc tout cela est lié.
Mais tout est lié. Encourager l'activité physique, encore une fois, c'est à personnaliser, hein, c'est fonction du problème, mais encourager l'activité physique, c'est également quelque chose qui va diminuer la douleur. Les médicaments, la question par rapport à l'accoutumance, il y a clairement une accoutumance avec tout ce qui est opioïde. Donc ça, tout ce qui est à base de codéine, etc., il peut y avoir une accoutumance, et les Américains en savent quelque chose, ça fait des milliers de morts chaque année actuellement, c'est une véritable épidémie à cause d'une prise non contrôlée d'opioïdes, et bien souvent, c'est pour des personnes qui ont des douleurs d'arthrose, hein, ou des douleurs, des lombalgies ou autres. Hein. Donc, il faut faire attention à ça. Mais il y a plein d'autres médicaments qu'on peut utiliser, également contre la douleur. Ça peut aller du paracétamol, évidemment, le plus
basique.
Classique et le plus basique, aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, un peu de tramadol qui est aussi un opioïde mais plus faible, avec un peu moins d'accoutumance. Voilà, donc il y a quand même des pistes.
Alors voilà, très bonne journée à vous Lansana, à Conakry, hein, donc ce conseil du professeur Berenbaum, si possible reprendre de l'activité physique et certainement derrière une vie plus facile, puisque a priori vous aimiez justement énormément le sport. C'est aussi, ça compte aussi pour le moral et c'est très important. On va rester à Conakry en Guinée où l'on retrouve Abou. Bonjour Abou.
Oui, bonjour.
On vous écoute Abou.
Bon, pour moi, tout a commencé à partir de 2008-2009 jusqu'à 2010. Quand j'étudiais, pendant les vacances, je partais au village pour aider mes parents pour les travaux sans pêtre. Donc au retour pour continuer les études, j'ai senti les douleurs musculaires. Donc même quand j'expliquais aux frères ou bien aux parents, on me disait « mais tu viens de faire les travaux sans pêtre ». Donc c'est ça qui répercute sur ton corps, au niveau des articulations. Donc j'ai laissé et puis je prenais des petits comprimés inflammatoires qu'il faut pour me soulager un tout petit peu. Maintenant à l'université, à partir de 2011-12, j'ai constaté, quand je rentre dans un bureau climatisé, je me sens mal, je me sens très mal. La douleur commence à tuer sur moi. Donc, je me pose la question. Il y avait un centre de santé dans l'enceinte de notre université, Général Lansana Conté. Là-bas, un jour, j'ai été là-bas pour la consultation. Le docteur m'a consulté et il m'a prélevé. Au niveau résultat du prélèvement, il m'a dit que je suis drépanocytaire. Donc, il m'a donné un produit d'aspirine 300 mg. Donc, je prenais ça. Mais au fil du temps, j'ai constaté toujours la douleur persiste. Donc, effectivement, j'ai été dans un autre centre de santé. J'ai expliqué le problème. On m'a envoyé au traumato parce que moi, bien sûr, il y a les douleurs d'articulation, mais la douleur persiste beaucoup au niveau de mon dos. Donc, lui, il m'a dit qu'il faut faire la radio. J'ai fait la radio. Le résultat s'avérait que je n'ai pas d'entorse au niveau du dos. Donc, et aussi, ils m'ont prescrit d'autres ordonnances. Donc, je ne retiens pas les noms. Donc, j'ai continué à prendre ça. Mais toujours, j'ai constaté que vraiment, en vain, la douleur persiste. Bon, tout récemment, pour être bref, j'ai été dans parce que actuellement, j'ai une prise en charge dans mon lieu de travail. J'ai été la clinique Ambroise Paré, avec un généraliste dont j'ignore son nom, oui bien sûr c'est le docteur Camara. Lui aussi il m'a recommandé de faire le scanner avec, parce que j'avais fait deux radios à la fois. Lui il m'a dit bon les radios ne sont pas assez claires, il faut faire le scanner. J'ai fait le scanner là-bas aussi, là le résultat de ça s'avère que j'ai pas d'entorse au niveau du dos. Maintenant j'ai fait l'analyse sanguine, dans l'analyse sanguine là-bas aussi ça s'avère que je suis j'ai du rhumatisme. Maintenant lui aussi il m'a placé. Actuellement je suis en soumission de produits Voltaren, Dontocyline, Structum 500 mg, donc c'est les trois produits que je suis en train de prendre.
Abou, je vous interromps, on a bien compris que vous étiez vraiment en quête d'un diagnostic, vous allez un petit peu vers toutes les pistes, vous avez besoin de réponses aujourd'hui, ces réponses, vous ne les avez pas, vous avez cité bien sûr cette maladie, hein, la drépanocytose, maladie du sang d'ailleurs, on a aussi Souf de Ouagadougou qui demande quelle est la différence entre les rhumatismes et la drépanocytose. Le problème c'est bien d'identifier la cause de la douleur.
Oui, absolument. Là, c'est bonjour à vous. Vous posez vraiment la question du diagnostic par rapport à des lombalgies en particulier ou du mal de dos, on va dire. Et c'est effectivement un diagnostic qui est pas toujours facile à poser, à savoir l'origine de ces douleurs. Bon, alors. Premièrement, en ce qui concerne la drépanocytose ne provoque pas à proprement parler de rhumatisme, mais des crises de douleur très aiguës, hein, osseuses. Donc, je ne vois pas de relation entre la drépanocytose et le mal de dos. J'ai une question à vous poser, Abou. Est-ce que ça vous réveille la nuit? Est-ce que vos douleurs vous réveillent la nuit?
Non, mais pendant le bas mes réveils, c'est un peu difficile parce que ça travaille que j'ai sens une forte douleur, oui.
Bon, et voilà. Donc, en fait, encore une fois, je ne peux pas faire un diagnostic hein, pour Abou, hein, c'est impossible. Mais la question qui se pose par rapport à ces problèmes de lombalgie, c'est est-ce qu'il y a un rhumatisme inflammatoire de type spondylarthrite qui réveille la nuit, qui provoque un dérouillage le matin pendant une heure et ensuite on est mieux au cours de la journée?
On n'a pas entendu ça.
Et on n'a pas complètement entendu ça, mais encore une fois, peut se voir. Et je ne veux pas parler du
bien
cas
sûr,
de Abou, parce
bien.
Que ça, je ne sais pas.
En tout cas, ce qu'on peut lui dire déjà, excusez-moi de vous interrompre, oui. C'est peut-être qu'il faut qu'il retourne voir quelqu'un avec une description vraiment précise, pas à pas, de ses douleurs, pour qu'il puisse arriver à un diagnostic
mais
stable.
Ce que j'ai entendu quand même, c'est qu'il y a eu des examens qui ont été réalisés, il y a eu un scanner qui a été fait, il y a eu une prise de sang qui a été faite, donc j'ai l'impression qu'il y a un traitement. Donc j'ai l'impression que là, maintenant, vous êtes bien pris en charge. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment en écoutant. Mais encore une fois, c'est important qu'il y ait un diagnostic posé devant un mal de dos. Le mal de dos, mal du siècle, d'accord. Mais pour autant, c'est bien une fois qu'il y ait un diagnostic fait par un spécialiste, pas nécessairement un spécialiste d'ailleurs, mais que vous alliez consulter au moins une fois votre généraliste quand on a mal au dos.
Très bonne journée à vous. Très rapidement, on va prendre Janice, hein, parce qu'elle attend au standard. En quelques mots, Janice, qui est à Brazzaville au Congo. Bonjour Janice.
Bonjour Caroline, bonjour à tous les auditeurs de Priorité Santé.
Est-ce que vous pouvez nous exposer alors votre cas?
Oui, je suis, comme vous avez dit, à Brazzaville. Je suis diabétique depuis 2005. Et en 2010, je souffre depuis 2010 d'un mal au niveau de mes pieds. Et j'ai dû consulter plusieurs médecins. Bon, au niveau des médecins, je me dis qu'il y a certainement passé un jour.
Alors Janice, vous êtes subitement éloignée, je ne sais pas si c'est de votre fait ou si c'est la ligne téléphonique. Quand on a préparé l'émission, on avait noté donc que vous aviez donc une neuropathie diabétique qui avait été diagnostiquée, mais vous vous posez la question aussi pour savoir s'il ne s'agit pas de rhumatisme ou d'insuffisance veineuse. C'est en tout cas ce que vous ont dit des médecins. Vous êtes même allé un petit peu partout hein, pour consulter, qui Kinshasa, Brazzaville, Rabat, Dakar, vous ne savez pas quoi penser. Hein. On retrouve un petit peu cette errance de diagnostic d'Abou tout à l'heure. Voilà. En tout cas, là, ce qui est différent, c'est qu'il y a une autre maladie chronique. Tout à l'heure, il y avait la drépanocytose. Là, il y a le diabète.
Voilà. Donc ça, c'est tout à fait la démarche diagnostique, hein, et les questions qu'on pose. Par exemple, pour Janice, elle décrit des picotements, c'est des fourmillements, des picotements dans les pieds, dans le cas d'un diabète. C'est là où on a des diagnostics différentiels, ce qu'on appelle des diagnostics différentiels, c'est-à-dire que là, on est sans doute non pas face à des douleurs de rhumatisme, mais à des douleurs liées aux nerfs. Et là, c'est effectivement plutôt un neurologue qu'il faut consulter pour avoir de traitement adéquat.
En tout cas, on salue Janice, hein, qui était à Brazzaville. On s'excuse pour cette perte de la ligne, mais en même temps, ça ne dépend pas vraiment de nous. Et on poursuit cet échange avec vous, professeur Francis Berenbaum, chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et on va faire un détour tout de suite par Dakar.
Priorité santé sur RFI.
Où l'on vous retrouve, professeur Swaibou Ndongo, bonjour.
Oui, bonjour Madame Paré.
Vous êtes chef du service de rhumatologie médecine interne à l'hôpital d'Al Hajjam de Dakar. Professeur Ndongo, quelle est la maladie rhumatismale pour laquelle les patients viennent le plus souvent vous consulter à Dakar ?
Bonjour d'abord aussi à au professeur Berenbaum.
Bonjour.
Sans aucun doute, c'est l'arthrose. Oui, bonjour. Sans aucun doute, c'est l'arthrose.
Et les personnes qui viennent vous voir à un stade plutôt avancé de la maladie ?
Oui, tout à fait. À un stade avancé de la maladie. Et après l'arthrose, il y a les rhumatismes inflammatoires, en particulier la polyarthrite rhumatoïde.
Est-ce que vous diriez qu'il y a un retard de diagnostic et de prise en charge dans les cas que vous traitez, professeur Ndongo ?
Parfaitement. Il y a énormément de retard diagnostique au grand dam des patients, et surtout pour ce qui est des rhumatismes inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde, puisque dans l'entendement populaire, souvent les rhumatismes sont attribués aux personnes d'un certain âge. Si bien que pour les rhumatismes inflammatoires, il y a énormément de retard diagnostique, encore une fois. Et ceci fait que les patients viennent malheureusement en stade avancé avec des déformations.
Comment est-ce que vous agissez pour diminuer la douleur, professeur Ndongo, puisqu'on l'a dit, hein, depuis le début de cette émission, de très nombreuses maladies rhumatismales sont associées à de fortes douleurs?
Alors, tout dépend du diagnostic. Je pense que le premier pas, c'est d'abord de porter un diagnostic précis. Et c'est en fonction du diagnostic retenu que la stratégie thérapeutique va être enclenchée.
Et précisément en dehors...
Pour ce qui est de l'arthrose...
Pardon, excusez-moi.
Oui. Oui, je disais que pour ce qui est de l'arthrose, il y a des mesures isonogiététiques, à savoir... réduire la charge pondérale, des traitements antalgiques, de la rééducation et des conseils d'usage. Pour ce qui est du rhumatisme inflammatoire, bien sûr, il y a le traitement de fond qui permet de freiner l'évolution de ces rhumatismes, et en attendant que ces traitements de fond marchent, on associe souvent des traitements à base de corticoïdes et ou d'anti-inflammatoires.
Alors l'information, vous l'avez souligné, c'est important. Le Sénégal compte peu de spécialistes des rhumatismes. Combien de rhumatologues êtes-vous au niveau national au Sénégal, professeur Ndongo ?
On peut dire environ 10 rhumatologues pour 15 millions d'habitants.
Donc forcément, difficile de consulter un rhumatologue. Et j'imagine l'essentiel d'entre vous être localisé dans la capitale ou autour.
Oui, pour l'essentiel, ils sont tous dans la capitale. Et effectivement, les délais d'attente sont assez longs pour les patients. Même si il y a beaucoup d'autres collègues, notamment des médecins généralistes, qui interviennent dans la chaîne avec la pyramide sanitaire. Et c'est pour ça que nous insistons sur la vulgarisation de ces affections et surtout sur la formation médicale continue.
Que chacun puisse justement diagnostiquer en connaissance de cause. Un dernier point, professeur Ndongo, très important. Aujourd'hui, il y a un éventail thérapeutique pour traiter les maladies rhumatismales, notamment inflammatoires. Est-ce que tous les médicaments sont aujourd'hui accessibles aux patients sénégalais ?
Pas du tout, pas du tout. Pour ce qui concerne surtout les biomédicaments, qui malheureusement ne sont pas disponibles pour plusieurs raisons, le coût, mais aussi nous n'avons pas la même écologie microbienne. Et nous savons que ces biomédicaments posent souvent des problèmes infectieux. Mais quand même, nous avons, pour ce qui est des médicaments conventionnels, j'ai entendu parler du méthotrexate, du plaquenil et autres, nous avons tous ces traitements de fond qu'on appelle traitements conventionnels. Bien sûr, j'entends par traitement de fond ces traitements qui permettent de freiner l'évolution du rhumatisme. Et ceci nous permet quand même de prendre en charge nos patients et de pouvoir freiner l'évolution de leur rhumatisme.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, professeur Swayibou Ndongo. Je rappelle que vous êtes chef de service de rhumatologie médecine interne à l'hôpital d'Al Hajjam de Dakar.
RFI à Dakar, 92 FM.
Le temps passe vite, mais j'aimerais qu'on revienne justement sur ce que vient de dire le professeur Swayibou Ndongo. Difficulté d'accès à certains médicaments. Il a parlé des biomédicaments qui agissent notamment sur l'immunité. Hein. Professeur Francis Berenbaum, pourtant aujourd'hui, c'est la grande piste thérapeutique prometteuse, bien sûr, pour certains rhumatismes.
Mais c'est plus que prometteur parce que c'est ce qu'on utilise tous les jours. Tous les jours, des milliers de patients sont traités avec ces médicaments. Je trouve ça absolument scandaleux. C'est pas la première fois que je viens faire cette émission. Je suis à chaque fois scandalisé de
l'inégalité d'accès.
De cette inégalité d'accès à ces médicaments. Ça me révolte.
Même si tout à l'heure le professeur disait il y a le problème microbien. En gros, on est plus exposé à certaines agressions, à certaines bactéries, on est moins résistant. Est-ce que ça entre en ligne de compte ou c'est vraiment quelque chose d'économique?
Non, c'est purement économique. Ça ne doit absolument pas rentrer en ligne de compte. Bon, oui, bien sûr, il faudra faire
plus attention,
mais on arrive à contrôler ces problèmes-là. Vous vous rendez compte qu'on a à notre disposition maintenant peut-être 12 médicaments ciblés de type biothérapie. Il y a même maintenant de nouvelles familles de médicaments qui sont plus des biomédicaments par piqûre, mais qui sont même des comprimés qui agissent de façon extrêmement ciblée.
Et calme la réponse inflammatoire, c'est ça.
Il va y avoir le congrès français de rhumatologie qui débute dimanche à Porte de Versailles. On va pouvoir s'apercevoir de la diversité des traitements qu'on a. Et là, je continue à entendre que dans certains pays, et en particulier en Afrique, mais pas uniquement en Afrique, on doit se contenter du méthotrexate, qui certes est un très bon médicament, mais qui fonctionne pas chez tout le monde. Le plaquenil, c'est pas. Pour moi, je considère ça comme un véritable scandale, et je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Mais en tout cas, il faut se révolter contre ça.
Et puis, quelques mots sur la recherche, il nous reste très peu de temps, mais tout de même c'est important, quelle piste? On a ces biomédicaments, on a l'arsenal classique, et on va vers quoi, professeur Berenbaum?
Alors, c'est difficile d'aller dans tous les détails concernant la recherche, mais il y a beaucoup de recherche, et la recherche, ça marche. Les biothérapies dont on vient de parler, c'est lié à la recherche qui a eu lieu, on a identifié la cible, on a créé un médicament contre cette cible, on a donné ce médicament chez des patients, on s'est aperçu que c'était efficace. Il va y avoir de nouveaux médicaments, dans l'arthrose en particulier, contre la douleur. En un mot, la recherche fondamentale, la recherche clinique, toute la recherche que l'on fait et l'argent que l'on investit dans la recherche sur les maladies des muscles et des articulations et des os, eh bien ça aboutit à des nouveaux médicaments et que l'on va voir continuer à apparaître dans les mois et les années à venir.
Merci beaucoup, professeur Francis Berenbaum, de nous avoir éclairé sur cette question des rhumatismes. Je rappelle que vous êtes chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, responsable de l'équipe INSERM Arthrose et maladies métaboliques au sein de la Sorbonne Université, auteur du grand livre de l'arthrose publié aux éditions Erol. Notre page sport et santé, c'est avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Vous allez aujourd'hui nous parler de la santé bucco-dentaire des sportifs. Alors, docteur Sen, pourquoi est-ce que c'est important la santé des dents de celles et de ceux qui pratiquent un sport de façon intensive?
C'est tout à fait vrai que c'est absolument indispensable, tout simplement parce qu'on sait que des problèmes dentaires, comme des caries ou des infections, peuvent affecter, bien sûr, les performances sportives. Alors, il y a cet intérêt à vérifier régulièrement l'état dentaire pour justement prévenir l'existence d'abcès. Il faut savoir, par exemple, quand il y a un abcès, c'est un foyer infectieux qui va fragiliser, par exemple, les tendons ou les articulations. Ça peut même donner, quelquefois, lorsqu'on fait de l'effort physique, des problèmes cardiaques. Et puis, d'autre part, on sait que ça, alors c'est souvent un petit peu moins connu, mais l'engrainement, l'occlusion des dents joue un rôle sur la force musculaire. Et alors, lorsque l'on va retenir sa respiration, soulever quelque chose de lourd, et ben on va retenir voilà sa respiration et puis serrer les dents. Et là, par l'intermédiaire des chaînes musculaires, ça permet d'avoir, donc par ces muscles masticateurs, d'avoir une plus grande force musculaire. Et donc, c'est pour ça que, notamment, il faudra que les sportifs, notamment, remplacent les dents manquantes. Sur le plan infectieux, dont on parlait tout à l'heure, par exemple, lorsqu'on sait, ça c'est une chose qui a été découverte plus récemment, lorsqu'on a un entraînement intensif, eh bien, on a ce qu'on appelle des immunoglobulines, des anticorps d'immunoglobuline A qui salivèrent, qui diminuent lorsqu'on est très entraîné, et ça augmente aussi le risque d'infection. Donc, ce qui est certain, c'est que tous les athlètes devraient bénéficier d'une surveillance et d'une prévention dentaire particulière.
Alors, est-ce qu'il y a des risques particuliers en matière d'alimentation, justement, de ces sportifs, ce qui pourrait nuire à la santé de leurs dents?
Et oui, parce que en fait, on propose souvent aux sportifs d'apporter des boissons de l'effort. Et là, il y a souvent une surconsommation, du coup, de sucres rapides, ce qu'on appelle des sucres rapides. Et ces sucres-là favorisent l'apparition de caries. Et l'autre chose, c'est que les boissons, justement, énergétiques qui sont proposées, sont souvent acides et donc vont déminéraliser souvent l'émail et favoriser là aussi les caries. Et donc, le premier conseil à proposer aux sportifs, c'est de boire toujours un petit peu d'eau pure entre les gorgées de boissons de l'effort. Et puis, pour limiter justement ces risques, au-delà de boire cette eau pure, il faudra utiliser du dentifrice ou faire des bains de bouche qui sont fluorés, éviter bien évidemment les grignotages qui apportent là aussi souvent des sucres rapides, et puis préférer, lorsque c'est possible, lorsqu'on est à distance de l'effort, plutôt des sucres lents.
Alors, on a en tête ces images de sportifs, les boxeurs, parfois quand ils font du rugby aussi, certains qui ont des protège-dents. Dans quel cas, docteur Sen, est-ce que ce protège-dents est-il utile?
Il est utile très souvent. Évidemment, on pense au sport de combat, comme vous venez de le dire, mais également dans beaucoup de sports de contact, le rugby, le hockey, le football américain, par exemple, ou pourquoi pas même le handball. Alors, c'est intéressant parce que le protège-dents va bien sûr protéger les dents, mais pas seulement, il va protéger aussi les muqueuses à l'intérieur de la bouche, et quelque chose de très important qui est l'articulation de la mâchoire, l'articulation temporomandibulaire. Lorsqu'elle est abîmée, bien sûr, elle modifie l'ouverture buccale, mais aussi la qualité de l'occlusion, et ça joue sur la force musculaire, ça peut même entraîner quelquefois des douleurs au niveau du cou et donner des pseudo-torticolis. Et donc, il y a plusieurs types de protège-dents, il y en a qui sont plutôt du commerce, et l'intérêt c'est l'avantage sur le prix, parce que c'est pas très cher, mais par contre, souvent, c'est pas tout à fait bien adapté, et donc c'est un petit peu inconfortable. Et puis d'autres sont sur mesure, alors ils sont plus confortables, mais souvent ils coûtent un peu plus cher. Alors l'intérêt, c'est d'avoir le protège-dents, il est bien sur mesure lorsque, en fait, il tient sur la cadre dentaire sans effort. Il doit permettre, de bouche fermée, d'avoir une bonne déglutition et une bonne respiration. Voilà, donc l'idéal, c'est d'essayer de plutôt favoriser les protège-dents sur mesure. En tout cas, pourquoi? Parce que réparer une dent, ça coûte quand même beaucoup plus cher que même un protège-dents sur mesure. Voilà, alors ce que l'on peut dire, c'est que j'espère que grâce à tous ces conseils, nos auditeurs conserveront des gencives en béton.
Avec un beau sourire. Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique et réalise Priorité Santé. Demain, émission sexualité avec le docteur Catherine Solano qui répondra à toutes vos questions sur l'organe du plaisir féminin, le clitoris. On attend vos appels 33 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance.